Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Le commentaire de Steve Fortin, des positions pas comme les autres.
Oh Steve, je suis déprimé, je suis triste, je suis angoissé, je suis extrêmement inquiet de ce qui se passe en France. Vraiment.
Oui, ben c'est ça. Regarde, on va discuter toi et moi ensemble. Puis le petit avantage que j'ai, c'est qu'après, je vais faire comme je fais généralement. Je vais monter sur la terre, puis je vais aller écouter autre chose. Parce que si on veut garder un peu de santé mentale, et on en parle beaucoup dernièrement, contexte de pandémie chez nous, la nature, c'est peu importe où on peut la trouver. Puis j'espère que tout le monde peut en trouver. Mais c'est absolument fondamental de s'en sortir un peu des fois, puis d'aller se perdre en forêt, peu
importe. Tout à fait.
Où, c'est important. Parce que là, ce qui se passe là-bas, je vais te dire, je regardais, il y a quelqu'un qui m'a envoyé la déclaration là à l'époque qui avait été faite par Éric Dupond-Moretti. Là, c'était au mois d'août, si je me souviens bien, 2020. Là, la France n'est pas un coupe-gorge. Puis là, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est vraiment troublant. Deux attentats aujourd'hui. Avignon, là où il n'y a pas de mort, puis Nice. J'aimerais rappeler un principe que j'ai piqué de mon ami Marc-François Bernier, de faire attention quand il y a une situation comme ça, quand il y a un attentat, quand il y a un événement bouleversant qui se produit, les premières minutes, les premières heures, c'est jamais là qu'on a la meilleure information. Il faut attendre un peu d'en savoir plus.
Ouais.
Puis aussi, il faut se fier à des sources d'informations qui sont crédibles. Et moi, quand j'ai entendu le point de presse du maire de Nice, Estrosi, ben là, je me suis dit, OK, cet homme-là est crédible.
Qu'est-ce qu'il dit?
Puis, ben, il a tout de suite, là, il a dit, pour lui, là, c'est plus le temps de s'enfarger puis de tempérer les mots. Donc, il a parlé d'islamo-fascisme. Puis, tu sais, parce que là, il sortait d'une cellule de crise. Puis, ma compréhension, c'est que, on comprend, là, il était bouleversé. Puis, il faut penser aussi aux forces de l'ordre, les gens qui arrivent là, puis qui sont devant quelqu'un qui est complètement radicalisé. Et il a parlé de la scène, il a parlé de ce que les forces de l'ordre avaient vu, c'est-à-dire quelqu'un de radicalisé qui scande le Allahu Akbar, puis et des corps autour de lui, égorgé. On parle d'une décapitation. On verra, mais tu sais, on est quelque part là-dedans, qui commence à ressembler, en vue de la France en tout cas, à quelque chose qui est vraiment là, un conflit là, de civilisation.
Ouais.
Puis il y a des gens dans les rues, il y a des gens dans les rues en ce moment dans certains quartiers de la France, des radicalisés qui sortent et puis qui en appellent à plus de violence. Et là, ben, on voit là, comment que ça se produit. Dissimuler un couteau puis s'en aller comme ça proche d'un lieu de culte chrétien, parce que ça s'est passé pas loin d'une basilique ou dedans, on ne sait pas encore, comme je disais, faut attendre. Mais je veux dire, tu dissimules ça puis c'est difficile à empêcher là. Et ça commence à être vraiment, vraiment quelque chose de catastrophique. Et je tiens à faire un lien, parce qu'on en parle, toi et moi, Richard, puis j'entends pas beaucoup parler de ça ailleurs, malheureusement. Le procès de Charlie Hebdo continue. Et pendant ce temps-là, on est en train de terminer les témoignages. Ça fait quand même un bout, là. Je pense qu'on est rendu au jour 46. Puis ce qu'on entend encore là, c'est qu'il y a des gens radicalisés qui défilent et qui vont probablement se retrouver en prison et on en apprend de plus en plus sur une nébuleuse de gens là justement radicalisés qui a agi par exemple à Charlie Hebdo mais aussi Père Cacher. Puis c'est pas, tu sais, ça existe encore. Et là, t'as des spécialistes qui viennent lors de ce procès-là qui disent, faut faire attention parce que c'est probablement un petit peu plus répandu qu'on ne le croit, et c'est particulièrement un terreau fertile chez les gens dans certains quartiers où la misère s'installe, et on le sait, c'est quand la misère est installée dans certains quartiers, ben ça devient
en même temps, faut rappeler hein, que les terroristes du 9/11 là étaient des gens là très éduqués, des ingénieurs, gens qui gagnaient de l'argent. En même temps, tu sais, quand t'es radicalisé, des fois, ça n'a rien à voir avec ton milieu économique non plus.
C'est vrai. Mais en même temps, là, ce qu'on entend là, et aussi parce que c'est utile, puisqu'on parle de Charlie Hebdo, permets-moi de faire quand même un lien vers Samuel Paty. On a commencé une série hyper intéressante où différents chroniqueurs, des gens qui sont spécialisés en éducation, font des entretiens avec des professeurs, puis ils demandent à des professeurs, bon ben là maintenant, comment tu prépares tes cours, quelle est la réponse de tes étudiants dans différents quartiers, dans toutes les villes. Puis je trouve ça super intéressant parce que on donne la parole aux profs, on leur dit, OK, ta préparation de cours, c'est ça. Dans tel cours, on enseigne la laïcité là-bas, puis on explique les fondements de la laïcité dès l'école primaire. Comment tu le fais? Est-ce que tu oserais montrer les caricatures, par exemple, dans un cours au secondaire où on demande de développer la pensée critique? Je lis ça avec beaucoup d'intérêt parce que, bien entendu, ça a une résonance chez nous. Et on entend, et je lis des profs de France qui disent, ben, savez-vous, moi, pour m'éviter des pépins, ben bien sûr que non, je les montrerai pas, les caricatures. Tu sais, je veux pas m'embarquer.
On peut pas
les
blâmer.
Ben et là, cette autocensure-là, vue de la France, il y a beaucoup de gens, des spécialistes en éducation, qui disent, mais faut faire attention, parce que si on cède à l'autocensure, ben d'une certaine manière, on pile sur l'esprit même de la loi qu'on entend défendre. Et là-dessus, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est des textes et un point de vue vraiment là qui est engageant, puis qui aide encore plus à comprendre vers quoi on se dirige, et qui a certainement, en tout cas, des échos ici.
Écoute, puis il y a Erdogan, là, tu sais, qui est en train d'ameuter le monde musulman, des craqués totalement contre la France. Il y a un jeu aussi de géopolitique internationale qui se joue, là.
Ben écoute, oui, puis je lisais ce matin, mais ça, j'ai été complètement abasourdi. Un ancien, je pense que c'est président là-bas en Malaisie, mais je veux dire, un ancien président qui dit « Les musulmans ont tout à fait raison de vouloir tuer des millions de Français », puis il envoie ça sur Twitter comme ça dans une longue enfilade. Je veux dire, comme je te dis, c'est en train de prendre vraiment des allures là de conflits de religion et civilisationnels. Ça, c'est pas le fun. Puis mentionnons-le aussi parce que hier il y a un tweet vraiment pas le fun qui avait été lancé dans notre petite bulle à nous,
ben
toutes
oui.
proportions gardées. Et bravo à Marois Risky du Parti libéral qui a dénoncé ça parce qu'Antoine Robitaille, quand il avait vu ça, il avait dit wow, c'est inquiétant ça.
Et c'est une prof qui s'est fait menacer exactement comme ça. Samuel Paty en France.
Oui, si elle montrait ce que le bougre disait, lui, c'était si elle montre ça, ben ça va dégénérer. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça va dégénérer dans le contexte actuel. Je veux dire, c'est explosif. Heureusement, cette personne-là a effacé ça et s'est expliqué ensuite, s'est excusé ensuite. Mais je veux dire, on est là-dedans et il faut faire très, très, très attention parce que c'est une poudrière, c'est un baril de poudre, cette affaire-là. Et à un moment donné, il va falloir qu'on soit capable de nommer les choses. Et je veux aussi souligner ceci. Cette association d'imams en France qui dénonce la radicalisation. Et là, ils ont de plus en plus de place dans les médias. Et ça, il faut le saluer parce que
il faut le saluer,
on donne la parole. Pardon?
J'espère qu'il va y avoir des échos ici aussi, dans notre communauté musulmane aussi.
C'est important, ça, parce que là, on donne la parole justement à ceux qui, dans le monde musulman et en France notamment, disent il faut lutter contre la radicalisation, puis ils le font, et ils le disent, et ils sont accompagnés de catholiques, de prêtres, par exemple, et je vois là-dedans, moi, en tout cas, quelque chose qui est encourageant, et tant mieux, parce que si on va dans cette voie-là, en France, on va être capable, justement, d'isoler toujours un peu plus les gens les plus radicalisés. Et c'est ça qu'on veut faire, en fait. Puis c'est pas vrai que la majorité... Tu sais, il faut faire attention. Quand on dit le pas d'amalgame, là, faut faire attention avec ça. Mais il y a une chose, c'est que c'est pas vrai, puis certainement pas, en tout cas, vu du Québec, faut faire attention. C'est pas vrai que la majorité des musulmans sont des radicalisés. C'est faux. C'est une infime minorité.
Oui, mais...
Il faut justement que ça soit dénoncé par les gens qui les connaissent le mieux à l'intérieur.
Ben oui, mais tu sais, quand on parle des suprémacistes blancs, là, Steve, est-ce qu'on sent le besoin de dire, ben, c'est pas tous les blancs qui sont comme ça? Ben non, c'est sûr que ça tombe sous le sens, c'est pas tous les blancs qui sont comme ça. Comme ça tombe sous le sens, c'est pas tous les musulmans.
Ben oui, exactement, mais dans ce cas-ci, en tout cas, ça faisait du bien, me semble-t-il, de voir au cours des derniers jours et encore ce matin, donc instantanément, il y a des gens de différentes confessions religieuses qui sont sortis, dont des imams, et qui ont dit il faut lutter contre la radicalisation, puis il faut l'encourager et le souligner, et ce sera la même chose quand il y a des gens ici, parfois là, ça peut arriver, on voit que dans une mosquée X, il peut y avoir quelqu'un qui est, tu sais, il faut dénoncer tous les discours qui mènent à la radicalisation et dans tous les contextes. Et je veux dire,
oui, la communauté musulmane doit faire le ménage elle-même. Là. C'est eux autres qui vont dans les mosquées. Si jamais il y a un imam, à un moment donné, crinqué, qui tient des propos qui n'ont pas de bon sens, il faut qu'il le dénonce, il faut qu'il demande que cet imam-là soit renvoyé. Je veux dire, c'est nos partenaires là-dedans. Là. Il faut qu'ils nous aident.
Comme on le fait en ce moment par rapport à ce prof-là qui semble-t-il dans Montréal-Nord, tenait des propos et a eu des méthodes en classe qui sont tout à fait condamnables. Et je veux dire, là maintenant, il y a une enquête administrative, mais si tout ça est démontré, cette personne-là n'a pas sa place du tout dans une salle de classe, puis il faut agir il faut agir pour tasser des gens comme ça. Là, on n'a pas besoin de ça.
Tout à fait. Tu dis que Valérie Plante va être la mairesse de l'idéologie woke.
En tout cas, il y a des gens qui ont pris bonne note là. J'ai trouvé ça intéressant et je te jure, moi depuis quelques jours, mon téléphone dérougit pas sur différentes causes. Puis il y a quelqu'un qui était dans le parti de la mairesse Plante avec qui j'ai parlé ce matin, qui voulait faire écho à ça et qui disait ben. Tu sais, c'est pas tout le monde qui ont été d'accord avec ça. Puis on a certainement sursauté en lisant l'article dans Radio-Canada, sur le site de Radio-Canada ce matin, où on a retenu une phrase de supposément quelqu'un qui serait proche de la mairesse qui a dit pas question d'avoir une investiture avec cinq hommes blancs âgés ou je sais pas quoi, là, je paraphrase. Et ça fait sursauter parce que là, on disait mais attention. Et pourtant, il y a certainement eu beaucoup d'actions idéologique de cette mairesse-là et ça a créé des remous et il y a des adversaires de la mairesse Plante qui, eux, sont beaucoup plus modérés sur ces questions-là et qui vont probablement servir de ça pour l'attaquer et on fait même du maraudage auprès de gens qui probablement en ce moment ne se sentent plus tellement accueillis dans ce parti-là. Si t'es un maire d'arrondissement puis que ça fait un bout que t'es là puis tu te dis ben écoute ok parfait on est tous pour la tarte aux pommes là mais tu sais quand on veut plus de diversité puis qu'on dit ben oui peut-être va falloir qu'on tasse du monde mais il y a des gens qui disent écoute attends un peu là moi je suis là je suis dévoué je fais ma job puis fait que tu sais ça va créer des tensions puis je peux te dire qu'il y a des adversaires de Valérie Plante qui l'ont remarqué et qui commencent déjà à marauder auprès de personnes dans le parti de la mairesse qui se sentent agacées par ça.
Écoute, j'ai hâte de voir qui va se présenter pour la mairie de Montréal. Là. C'est dans un an.
Oui.
J'ai hâte de voir quel candidat va oser se présenter. Là. Denis Coderre, il lance un livre. Là. Ben, c'est sûr. Là. Je parlais à Régis Labombe cette semaine pour les Francs-Tireurs. Puis il dit, selon vous, est-ce que votre ami Denis Coderre va se lancer? Il dit, ben oui. Ben oui. Lui est sûr. Ben,
c'est l'inconnu. Je veux dire, on peut bien être là, nous, puis se dire il va se lancer, mais dans le fond, tout le monde autour de lui, puis il y a tellement de drive là, de Nicodère qu'il y a des gens qui seraient intéressés à se lancer à la mairie qui attendent et qui seraient prêts à faire équipe avec de Nicodère si lui se lance à la mairie et qui serait à sa locomotive. Fait que, tu sais, je veux dire, en ce moment... Quels sont les déterminants qui vont faire en sorte que Denis Coderre va se lancer ou pas?
En même temps, on espère qu'il y a quelqu'un d'autre qui va se lancer aussi, parce que, tu sais, il y a un côté, là, back to the future, là. On revient en arrière, là. Si la seule alternative à Valérie Plante, c'est Denis Coderre, on n'est pas sorti du bois, là.
Ben, tu vois ce qui va se passer, c'est tout le temps comme ça. Il va y avoir à un moment donné là, parce qu'on est encore à plus d'un an des élections, et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des sondages. Puis là, on va dire bon ben, on va repêcher quelques noms, Daniel Henkel, Denis Coderre, tu sais, on va les noms qu'on connaît. Puis là, on va faire un sondage. Puis si on se rendait compte que Denis Coderre, par exemple, était égal ou supérieur à Valérie Plante, ben c'est certain que c'est comme ça qu'on bâtit un momentum. Puis, je veux dire, lui, de son côté, il va pas se lancer dans une cause perdante non plus. Ça lui prendrait des assurances, puis probablement qu'il y a des gens autour de lui, des démarcheurs qui sont en train de faire des représentations autour de personnes qui sont mécontentes. Tu me vois venir? C'est comme ça que ça fonctionne. Puis s'il sent que je veux dire, l'eau est tiède ou qu'elle est moindrement, là, tu sais, il va se lancer. Et pourquoi il ne le ferait pas de toute façon? Ça va prendre quelqu'un pour s'opposer à Valérie Plante. Il y a trop de gens qui sont insatisfaits. Ouais. On parle là, de l'idéologie, mais on parle aussi de la gestion, de comment cette ville-là est gérée dans son fondement même. Il y a trop de gens insatisfaits pour que ça n'accouche pas sur, à un moment donné, un genre de ralliement autour d'une opposition.
Il n'y a rien de pire quand un politicien ou une politicienne se sent investi d'une mission. Puis il n'écoute plus les gens là autour sur le terrain, là, puis ils ont une mission à accomplir. Ça, là, préservez-nous des politiciens investis d'une mission, s'il vous plaît.
Oui, et permets-moi de te dire que même dans les coins où elle devrait être la plus populaire, là, par exemple sur le plateau, quand on monte dans Rosemont-Petite-Patrie, tu sais, il y a des gens qui ont été longtemps sympathiques à sa cause et qui, là, tout à coup, se virent de bord, puis se disent, mais OK, on veut bien, là, mais ça fait quand même un bout de temps, puis on va s'en aller dans les prochaines élections.
Oups, on l'a perdu.
De commerçants qui sont... C'est ça, là. On s'en va dans le mur de ce côté-là.
Ah non, tout à fait, là. Ça grince aussi sur le plateau. Merci. Écoute, promène-toi dans la nature. Moi, je vais aller dans un parc, c'est sûr et certain, on en a besoin aujourd'hui. Merci.
Oui, certainement.
Merci, à demain.
Salut.
Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
Vous écoutez...